L'éditeur du Haut-Var, Jean Darrot, est notre invité. Il vient présenter ses dernières publications.
Et c'est un éditeur courageux qui vit dans un pays plutôt rural et qui nous fait découvrir des textes et des images parfois magnifiques, ainsi que des sons. Bonjour Jean Darrot.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir pour parler de cette dynamique. Et en plus de ça, c'est une dynamique qui fête quasiment aujourd'hui. C'est sa 10e bougie, c'est bien ça, pour les éditions Parole.
Tout à fait. Oui, parce que notre premier livre, on l'a sorti en novembre 2004, donc il y a pile 10 ans, hein, c'était à peu près à la fin de mi et fin 2004, donc ça fait 10 ans.
Voilà. 10 ans, une belle expérience et donc une belle période. Combien de publications jusqu'ici?
On a mis un pied devant l'autre sans s'en apercevoir. 10 ans, ça a l'air comme ça long, mais en fait c'est passé très vite et on a publié à aujourd'hui 70 titres.
70 titres, souvent des auteurs du pays, du cru,
oui,
qu'on
oui.
aurait tendance à oublier.
Ah ben bien sûr, oui, ben on a réédité parfois des gens comme Maria Borelli, et puis on a aussi notre Violette Ayot avec L'Homme Semence, qui est un petit peu notre brise-glace.
Ça c'est la nouvelle magnifique que vous avez exhumée et qui est vraiment vouée un très bel avenir. On va probablement en parler. Il y a aussi la collection Main de Femme qui est très importante.
Oui, c'est une des plus importantes. Donc c'est donner la parole à des femmes. Ce sont que des écrits de femmes. Alors ça peut être des gens connus et puis des gens pas du tout connus, et l'idée c'est de donner la parole, quoi, c'est tout.
Et c'est le terme de votre édition,
oui,
donc c'est
voilà.
Normal. La parole c'est aussi de la musique et de la chanson, et ça vous a concerné aussi?
Oui, on a commencé. Notre premier auteur, c'était un chanteur, c'était Daniel Domas, qui chante en occitan provençal. Et puis on a eu aussi Montanaro. Donc on a des gens qui écrivent et qui sont aussi autre chose. D'ailleurs, la première collection, elle s'appelait Biface parce que les auteurs étaient pluriels. Soit ils avaient deux langues, soit ils faisaient de la musique et de l'écrit, soit du dessin et de l'écrit, etc. Voilà.
Comment est-ce que vous trouvez vos manuscrits, Jean?
Alors, on les trouve pas, ils viennent jusqu'à nous.
C'est vrai.
Vous savez, on est devenu éditeur un peu par accident, à cause justement de Daniel qui est venu nous voir. Et puis après, une fois Daniel Domas, une fois que vous avez publié un livre, il y a plein de gens qui viennent vers vous en disant, moi aussi j'ai écrit quelque chose, j'ai quelque chose à vous proposer. Et ce qui est assez difficile dans le métier d'éditeur, c'est souvent douloureuse parce qu'on passe notre temps à dire non. Les gens vous amènent leur bébé et on leur dit non, je prends pas ton bébé. Hein, et ça c'est souvent difficile, et il y en a qui le prennent mal, il faut parfois se justifier alors qu'on sait pas forcément quoi leur dire. Pour un livre qu'on publie, on dit non 49 fois, quoi.
Oui, mais une fois vous avez dit oui, elle n'est même pas venue elle-même en personne et pour cause. Violette Ayot vous a présenté, entre guillemets, de là où elle est, L'Homme Semence, une nouvelle magnifique qui a eu plusieurs déclinaisons et ça n'est pas fini.
Oui, de toute façon, nous on l'a publié dans plusieurs états. Il y a eu justement une édition, au départ normale, classique, on va dire, on l'appelle classique. Ensuite, la seconde, ça a été une édition illustrée par une illustratrice qui fait de la gravure ici, puisque c'est Marilyn Viard, hein, qui est graveuse à Manosque. Et puis ensuite, il y a eu une version audio par une conteuse qui est Agnès Dumouchel de Gap, et ensuite on l'a édité nous-mêmes en allemand puisque c'était une demande, et ensuite par contre ça a été édité en italien par une maison d'édition italienne, en suédois par une maison d'édition suédoise, il y a un projet en anglais, en espagnol, voilà. Et on l'a édité aussi avec une maison d'édition parce que c'est une autre langue, c'est la bande dessinée, quoi. Donc on a une
bande dessinée
voilà, à deux faces aussi, puisqu'on a deux dessinatrices de bande dessinée qui sont deux bretonnes. Et donc il y en a une d'un côté qui reprend tout le texte de Violette Ayot et l'interprète en dessin, hein, et de l'autre côté Mandragore, donc la première face c'est Laetitia Rouxel, et de l'autre côté Mandragore qui est plutôt une dessinatrice de BD reportage qui fait tout l'environnement, c'est-à-dire à la fois l'environnement historique de l'époque mais aussi de tout ce qui s'est passé autour de ce livre depuis les rencontres ils ont eu des rencontres avec les habitants du coin, avec des écoles, avec des gens qui ont été touchés par ça, et c'est très intéressant parce que on a vraiment un document assez complet, quoi.
Et l'aventure de L'Homme Semence ne s'arrête pas là, on n'en parle pas, genre, on est un peu superstitieux, il faut faire attention, mais on vous demande tout simplement d'aller, de taper l'homme semence Violette Ayot sur votre ordinateur et vous aurez beaucoup d'informations sur ce texte absolument magnifique et sur cette période un peu particulière, 1851 dans les Basses-Alpes.
Le soulèvement républicain, ça a beaucoup marqué la région et c'est important, je crois que c'est un morceau de l'histoire des gens d'ici. D'ailleurs, la BD a été présélectionnée pour le prix des lycéens et apprentis.
Régional, donc
voilà, régional.
PACA.
Et je crois que c'est important parce que ça permet à des jeunes qui, par exemple, n'aimeraient pas lire des textes habituels, de se plonger dans cette histoire qui fait partie de leur histoire.
Et qui est magnifique, je le répète, et je le répéterai bien souvent, d'ailleurs. Jean, vous êtes venu avec plusieurs de vos publications récentes diverses. Alors il y en a qui sont poignantes et qui concernent tout simplement les conflits. On est en période d'anniversaire, oui. 14-18 et puis pas uniquement.
Oui, parce que si nous on a 10 ans, les éditions Parole, on fête, c'est difficile, la guerre de 14, c'est les 100 ans, donc on a publié un texte de Félix Chabot qui est monté au théâtre aussi avec René Sette qui s'appelle « Pour l'exemple ». Et qui permet de parler de la façon dont les villages de la région ont été détruits par cette guerre. Parce que autant les villages de toute la zone des conflits, l'Alsace, la Lorraine et tout le nord de la France ont été touchés directement, mais dans nos villages où il n'y a pas eu de bombardement, les villages ont été touchés par la disparition parfois complète des hommes. Quoi.
Et quand on dit pour l'exemple, on pense bien sûr aux fusillés, pour l'exemple.
Oui, alors justement, le héros de ce petit livre a été fusillé pour l'exemple, pour ça. Donc Olivier, qui est de ce petit village, qui est un village identifié, puisque c'est Châteauneuf-les-Moustiers, donc ce village qui a été détruit par la guerre, en fait, plus personne n'y habite, ou presque. Voilà, c'est une façon aussi de remettre la Provence dans cette guerre, surtout qu'on leur a parfois dit beaucoup de mal avec le cinquième corps, qui était le corps des méridionaux, quoi, les Provençaux et les Corses.
Deux autres publications également, mais qui concernent cette fois-ci une guerre en Afrique.
Oui, de toute façon, donc la Toussaint 1954, c'est le déclenchement de la lutte armée par le FLN en Algérie, avec donc une radicalisation du conflit et un appel important des appelés. Hein. Et donc on a deux livres, un livre de Sophie Alfieri qui s'appelle « Trois jeunes appelés dans les Aurès », Algérie 1956-1957, et Sophie, son père a fait donc la guerre d'Algérie comme beaucoup d'appelés pendant ces deux années-là et il est revenu assez bouleversé et il a mis fin à ses jours après.
Et à cause de la guerre.
Oui, complètement, il s'en est jamais remis et donc il a décidé de s'en aller. Et un jour, Sophie a trouvé dans un livre de Benjamin Stora une photo de son père qui manifestement venait d'une série de photos qu'ils avaient dans la famille, dans un album avec toutes les photos du père justement. Donc elle a fouillé cet album et elle s'est aperçue qu'il y avait des notes derrière toutes les photos, sauf à partir d'une certaine période, il n'y avait plus de notes, il n'y avait que des photos. Donc elle a travaillé à partir de ces notes, elle a rencontré Benjamin Stora qui l'a encouragé à écrire. Elle a écrit trois nouvelles en se mettant à la place de jeunes appelés à partir des notes de son père. Voilà, ça s'appelle « Trois jeunes appelés dans les Aurès », c'est assez dur.
Et Benjamin Stora, ce grand historien, a signé une préface
tout
aussi
à fait,
ce livre, ce qui est une preuve de qualité. Et en même temps, ça s'appelle donc « Trois jeunes appelés dans les Aurès », Algérie 56-57 de Sophie Alfieri, notamment avec une préface de Stora.
Voilà, qui est d'Aix-en-Provence, donc aussi un auteur, oui, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc, autre volet sur l'Algérie et ses conflits, un livre de nouvelles aussi qui s'appelle de Soumia Amar Khodja, qui s'appelle « De six beaux ennemis », hein, qui parle justement alors Soumia Amar Khodja était professeure à l'université d'Alger de français et elle a dû quitter l'Algérie en 1995 avec son mari parce qu'ils étaient menacés par les islamistes, hein. Ça a été après la guerre d'indépendance, c'est une deuxième guerre qui est peu connu, mais qui a fait quand même 200 000 victimes en Algérie.
Avec le Front islamiste du Salut, le fameux fils de mauvaise réputation.
Hein. Voilà, donc elle a dû, elle est aujourd'hui, elle habite à Besançon, hein, et donc voilà, c'est un très beau, ce très beau texte aussi sur ce lien profond qu'il y a entre nos deux pays au travers des femmes, hein, puisqu'on a des moments qui se passent en France et en Algérie et toute cette relation, et on a aussi des gens qui se sont battus pour l'indépendance, qui ont été torturés par nos bons militaires, et puis qui se retrouvent, je dirais, à défendre encore leur pays face aux islamistes, sont à nouveau torturés par les islamistes. Dans une vie, ça fait beaucoup.
Un ouvrage qui nous fait réfléchir certainement, voilà, sur les notions de nationalité et de religion aussi. Pourquoi pas, de si beaux ennemis. C'est aux éditions Parole. Des choses plus légères aussi quand même, Jean Darrow, parce que bon, il n'y a pas que des suicides, voilà, et des guerres.
Non, mais ça c'était l'occasion, et puis c'est les textes qui viennent vers nous, et donc on a un petit livre aussi de nouvelles qui s'appelle Roi d'Acrouse et autres nouvelles de Jacqueline Van Bruyen. C'est une dame qui est plus très jeune, mais c'est un livre un peu de révolte de femmes, hein. Elle commence une des nouvelles s'appelle Le Banc, et un jour qu'elle lit sur le banc face à la Méditerranée, son père arrive et lui envoie une gifle magistral, son livre vole, et son père lui dit « Je t'ai dit de ne pas lire ces saloperies », et il est en train de lire « Les fleurs du mal » de Baudelaire. Voilà. Et donc elle dit que du coup, toute sa vie, elle fait le serment qu'elle lira des livres, que ça soit sur un banc, par terre, sur un canapé, debout, dans une voiture, etc.
Une, voilà, révolte qui sera littéraire, c'est bien.
Complètement, oui. Complètement. Alors il y a aussi L'Automate du vide-grenier d'un auteur qu'on avait déjà publié, qui avait écrit justement un livre sur le Dien Bien Phu, qui s'appelait La Petite Flingue. Donc là aussi c'est un anniversaire, et puis là c'est un roman beaucoup différent. C'est l'histoire d'un automate qui sert d'appât pour retrouver quelqu'un sur les vides-greniers, voilà. Et c'est une dame qui d'un seul coup découvre l'automate qu'elle a offert à un des grands amours de sa vie, et elle est saisie parce qu'elle se dit, si l'automate se retrouve sur le vide-grenier, c'est qu'il est mort. Et en fait, c'est pas vrai. Ça sert de chèvre pour la retrouver. C'est très, très intéressant.
Et Monsieur Seguin n'est pas là.
Voilà. Démilica, L'automate du vide-grenier. Et puis, un livre très frais, qui est un des derniers, qui est de Marie Lebelli, qui est institutrice à côté de Digne, qui est une jeune institutrice, s'appelle Le Large dans les poubelles. C'est l'histoire d'une jeune fille qui passe un examen à Copenhague, parce qu'elle est d'origine russe, elle a été adoptée par une famille danoise, et elle est en train de passer un examen, puis elle arrive devant le sujet, et finalement, elle plie sa copie, elle s'en va. Et parce que elle est préoccupée par l'idée de retrouver sa famille, comme beaucoup de personnes sans famille. Et elle découvre qu'elle a un cousin à Marseille. Donc elle prend le train et elle arrive à Marseille. Et à Marseille, son cousin devait la venir la chercher. Il est pas là. Alors à partir de là, il va y avoir toute une aventure. Elle se réfugie parce qu'elle perd ses affaires dans une calanque. Et puis elle va à l'université de Lumini, où là, elle arrive à pouvoir se laver parce que c'est l'été. Donc il y a quelques étudiants qui restent, mais tout est à peu près vide. Donc elle peut se doucher. Elle trouve un peu à manger dans les frigos. Puis elle va rencontrer un garçon dont elle tombe amoureuse, mais je raconte pas la suite. Elle remonte toute la Provence, toute la Durance avec ce compagnon.
Et c'est toujours un personnage important dans vos livres et dans vos actions, la Provence. C'est toujours un fond particulier.
Oui, et puis il y a à la fois la Provence et puis Marseille, parce que pour moi la Provence est un arbre dont je dirais le tronc c'est plutôt la Durance, et Marseille c'est la souche, quoi, hein, qui prend racine dans la mer, et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui remontent de la mer, hein, voilà. Et puis tout dernier qui vient de paraître, qui sent encore, mais on peut pas le sentir à l'écran, au micro, un gecko dans la calebasse. C'est un auteur qu'on avait déjà publié, c'est Violaine Varin, qui est d'une famille de Quinçon. Et autre histoire extraordinaire, ce sont des petits contes qui se passent en voyage, c'est-à-dire c'est une famille qui a beaucoup voyagé, donc un gecko dans la calebasse, ça se passe en pays d'Ogon, en Afrique, puis après on a une histoire qui se passe au Vietnam, etc. Quoi. De petits contes comme ça, une histoire un peu extraordinaire, étonnante, voilà.
Avec des animaux, et d'ailleurs, les animaux, ça fait partie aussi d'un ouvrage pour les enfants, pour les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Hein.
Oui, les moins jeunes. Ouais. Donc, c'est dans la collection Main de Femme, on a... Pourquoi ? Donc, c'est une collection qui permet le dialogue entre les adultes et les enfants. On a d'ailleurs l'étrange Noël de Léa de René Frény, qui est justement de Manos. Mais là, le dernier, c'est que Sal, le lézard donne sa langue au sorcier, qui met en scène deux animaux emblématiques de la région, le lézard vert occidental et le petit rhinolophe qui, dans le Verdon, est une chauve-souris qui vit et qui chasse au-dessus de l'eau. Voilà.
Ils sont très différents tous les deux. Il y en a un qui est vert, l'autre qui est noir, voilà. Un qui vole, l'autre qui rampe.
Oui, enfin, alors ils se rendent compte parce que le lézard va voir le sorcier, et le sorcier c'est ce petit rhinolophe, parce qu'il lui arrive un malheur à ce lézard, c'est qu'un jour qu'il joue avec ses frères et cousins, une roche se détache et lui arrache une patte. Et donc il décide, après avoir beaucoup souffert et décidé de continuer à vivre, il va voir le sorcier pour lui demander de lui enlever ses autres pattes. Et il va se transformer, il va devenir un magnifique serpent, la vie reprend et le goût de la vie. Et je raconte pas la suite. Mais
c'est un conte moral, quoi.
Oui,
c'est pas mal du tout. Jean Darrow, bon, on arrive à la fin de notre entretien. On trouve vos publications un petit peu partout dans la région.
Dans toutes les librairies qui veulent bien, on les trouve. Et puis, nous, on va à la rencontre aussi des lecteurs au travers de nos soupes olives. Donc la prochaine, ça se passe à Claret, au nord de Sisteron, là dans la vallée de la Durance. C'est donc le 22, c'est ce vendredi 22.
Hein, samedi 22,
à partir de 18h. La prochaine, ça sera à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 28 novembre. Et ensuite, on sera à Fort-Calquier le 5 décembre au café La Parenthèse, qui est au plein cœur de
Fort-Calquier, la place Saint-Michel, très exactement.
Place Saint-Michel. Et on a aussi des marchés de Noël, en particulier le 7 décembre à Saint-Julien-le-Montagnier.
On aura l'occasion d'en reparler, en tout cas. Vous avez aussi un site internet, Jean ?
Oui, tout à fait.
Alors, les éditions Parole, Parole au singulier.
Oui, surtout.
La parole.
Voilà, il suffit de taper édition Parole au singulier et on trouve le site. Sinon, c'est www.édition avec un S, -parole sans S. Net.
Et soyez curieux et allez voir les publications de Jean Darrow, parce que c'est vraiment magnifique et ça nous apprend beaucoup de choses sur notre territoire et sur les gens qui y vivent. Merci encore Jean d'avoir été mon invité et d'être venu parler de tout ce fourmillement de littérature qui me convient parfaitement. À
merci,
très bientôt.
Merci.